Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans le Libre Journal des Sciences de Radio Courtoisie, Libre Journal des Sciences présenté aujourd'hui par votre serviteur, David Mascret. Pour parler aujourd'hui d'un sujet qui évidemment présente une actualité brûlante, mais qui en même temps nous permettra d'analyser avec recul la question de sa scientificité, je veux parler de l'économie et de la finance. L'économie et la finance sont-elles des sciences? C'est la thématique et le sujet que nous aborderons aujourd'hui. Pour en parler, présent dans ce studio, Xavier Guillot, bonjour. Vous êtes spécialiste de la gestion des crises, en particulier des crises extérieures. Vous êtes président de XAG Conseil, Xavier Guillot Conseil, conseiller du commerce extérieur de la France et auditeur de l'Institut des hautes études de la défense nationale. À vos côtés, Jean-Pierre Rondeau. Jean-Pierre Rondeau, bonjour. Vous êtes spécialiste de finance, président de Megara Finance, un institut de conseil et de gestion de patrimoine. Et vous êtes évidemment, dans cette émission, notre analyste financier de prédilection. Et enfin, Jean-François Sousbiel, bonjour.
Bonjour, David.
Vous êtes consultant, spécialiste de géopolitique et de géoéconomie, et vous êtes l'auteur remarqué d'un ouvrage paru récemment que je ne peux que recommander à nos auditeurs, Les Royaumes combattants, une introduction aux nouvelles guerres mondiales.
Oui, vers une nouvelle guerre mondiale, c'est un peu effrayant.
C'est le sous-titre de cet ouvrage, en tout cas qui met très bien en avant les soubassements géopolitiques et géostratégiques des différents événements auxquels nous assistons depuis quelques mois et quelques années. Alors d'emblée, peut-être pour aborder cette question de l'économie et de la finance, ces deux disciplines sont-elles des sciences et dans quelle mesure, je m'adresserai à vous, Jean-Pierre Rondeau, en vous demandant un tout petit peu de nous décrire ou de nous rappeler comment s'est constituée la finance et en quoi consiste cette discipline.
Je crois plutôt que ce qui est intéressant, c'est de décrire pourquoi aujourd'hui on en est arrivé là, au niveau de cette crise, ne vous semble-t-il pas, et rappeler que cette crise aujourd'hui a pour origine en grande partie des calculs mathématiques, ou en tout cas des personnes qui ont cru qu'avec leurs calculs mathématiques, elles allaient trouver la martingale qui faisait gagner à tous les coups en matière donc de placement et en matière d'investissement. Et aujourd'hui on remarque en s'amusant, comme vous me l'avez demandé, on remarque en se retournant sur les prévisions qui étaient faites sur les différents secteurs d'investissement, que ce soit les matières premières, que ce soit la bourse, que ce soit les taux, que ce soit les devises. On remarque que tout ce qui a été raconté, c'est pour ne remonter qu'à 2 ans, ces 2 dernières années, est aujourd'hui complètement contredit et que toutes les prévisions ont été mises par terre. Donc le calcul, le caractère scientifique de l'économie fait partie de grandes théories effectives qui sont à un moment donné bouleversées par quelque chose qui vient des marchés et qui est la conscience de chacun, les craintes ou alors les espoirs de gains faciles. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Alors c'est une ébauche évidemment, mais peut-être pouvons-nous distinguer entre finance et économie d'abord. Évidemment l'économie est une discipline régie par des lois simples et anciennes, déjà décrites chez Aristote, dans la crématistique. Oikos, l'économie, c'est ce qui nous renvoie à la domesticité, à la maison, à la gestion des biens communs du patrimoine privé d'une famille. Donc on sait à peu près quelles règles y président, finalement de dépenser moins qu'on ne gagne, de gérer d'une certaine manière un certain nombre de ses biens. On introduit à partir du 14e, 15e siècle les questions d'amortissement et de double comptabilité. Mais quelque chose se produit sans doute au 16e et 17e siècle, c'est parallèlement à cette économie la naissance de la finance. Alors déjà, peut-on distinguer l'économie de la finance et comment? Qu'est-ce qui caractérise l'une par rapport à l'autre? Jean-Pierre Rondeau.
Encore moi. Je suis pas un scientifique au sens là. Ce que je pense, c'est que la finance est la finance s'appuie sur l'économie et donc pour se former une façon d'exercer, mais donc l'un découle de l'autre, mais et comme je vous le disais tout à l'heure, il existe de nombreuses théories contradictoires et qui sont aujourd'hui, qui sont mises à plat, mises à bas, du moins par l'économie.
Oui, la finance peut-être est née effectivement au Moyen-Âge avec le développement du commerce international et le besoin de fournir des capitaux à tous les gens qui partaient en voyage et qui allaient commercer aux quatre coins du monde, quoi. C'est les grandes découvertes. Et effectivement, c'est ça qui a fait le développement des banques, du système bancaire. Et alors, effectivement, aujourd'hui, on semble souffrir de ce qu'on appelle des excès de cette finance. Et depuis les années 80, on peut dire depuis les années Reagan, et surtout Clinton d'ailleurs. Je crois que c'est Clinton qui a surtout dérégulé le système financier. La finance, les banques ont imaginé des produits ou des véhicules de plus en plus sophistiqués, de plus en plus complexes pour gagner de plus en plus d'argent. Alors, effectivement, Jean-Pierre Rondeau parlait des modèles mathématiques. Effectivement, des gens de Normal Sup ou de Polytechnique aujourd'hui travaillent dans la finance pour développer les algorithmes les plus sophistiqués,
les plus incompréhensibles,
effectivement. Pour
oui, ils ont toutes les certification possible, tous les sacrements et
oui.
Voilà.
Bon, la finance. Bon, l'économie est basée d'abord sur la psychologie. Le capitalisme, dans lequel qui est le système économique dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui a été complètement libéré et dérégulé par Margaret Thatcher et puis Ronald Reagan, est comme il est dérégulé, il ne fonctionne que sur la psychologie humaine. La psychologie humaine, il y a deux sentiments qu'on appelle en anglais fear and greed, ou plutôt c'est greed and fear, c'est-à-dire l'avidité et la peur. Donc les marchés fonctionnent uniquement sur ces deux sentiments. Donc tant que ça marche, tant que les marchés montent, même si c'est de la folie, et la crise actuelle, je veux dire, c'est pas la peine d'être grand clair, beaucoup de gens l'avaient prévu, enfin c'était très facile de prévoir les crises. Le problème c'est que tant que les marchés montent, la règle du jeu c'est de monter avec les marchés, c'est de continuer. Et dans ce système capitaliste dérégulé, la crise fait partie complètement des règles du jeu. C'est-à-dire, les marchés montent sous forme de bulles. Alors, il y avait un économiste qui s'appelait Minsky, je crois que c'est Hyman Minsky, qui a théorisé dans les années 70 le fonctionnement d'un marché dérégulé, c'est-à-dire un marché où c'est la main invisible qui gère tout. Il y a la constitution inévitablement de bulles. Alors, il a mis en évidence les différentes étapes de ces constitutions de bulles. Donc c'est l'euphorie irrationnelle, c'est le greed, c'est l'avidité, et puis ensuite toutes les bulles sont forcément obligées d'éclater, la bulle éclate, et à ce moment-là c'est la crise. Mais la crise, il ne faut pas penser que la crise c'est un phénomène catastrophique pour le capitalisme, c'est tout
elle
simplement
est inscrite dans
elle est inscrite dans le capitalisme, absolument dans le fonctionnement. C'est-à-dire c'est normal, ça monte de manière irrationnelle sous l'effet de l'avidité, et ensuite ça chute parce que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, parce que les bulles sont faites pour éclater, et là, ça chute. Alors, la gestion des crises, ensuite, la grande crise, la mère de toutes les crises, c'est la crise de 1929, elle a débouché sur la dépression, sur la grande dépression, et ensuite sur la guerre. Alors, les économistes d'après-guerre, de l'école de Milton Friedman, les économistes monétaristes ont dit, mais ça a débouché sur... en fait, c'est pas la crise qui est en cause, la crise est normale, mais ça a débouché sur la guerre et sur la dépression, parce qu'elle a été mal gérée.
Donc c'est la gestion de la crise qui devient en fait l'enjeu stratégique duquel doivent s'accorder les économistes.
Exactement, c'est ce qu'ils prétendent, donc que ces crises étaient mal gérées parce que le système banque, enfin la réserve fédérale, je ne sais pas s'il y avait une réserve fédérale d'ailleurs, il n'y en avait pas en 1932,
il n'y en avait pas,
donc c'est pour ces économistes monétaristes, c'est la réserve fédérale qui doit massivement injecter des liquidités dans le système de manière à éviter une contraction de la masse monétaire et éviter l'enclenchement et la succession qui débouche sur la guerre et qui débouche sur une grande dépression.
Oui. Xavier Guillot, sur cette distinction entre économie et finance.
Oui, je reviendrai sur votre question originale, parce que quand on est sur un raisonnement de type économique, donc quand on gère les causes, on a plutôt une relation, je dirais presque en termes d'identification de la création de richesse qui est une relation de comptable, hein, et on va regarder ce que l'on produit et ce que l'on crée comme richesse en fonction de ce que l'on produit. Ouais, quand on fait de l'économie, on parle de PNB, de PIB. Enfin bon, on
essaye. La valeur centrale de l'économie, c'est le travail.
On essaye de ramener en permanence sur des notions de valeur qui sont liées au réel ou que l'on peut, sur lesquelles on peut, je dirais, élaborer tout un référentiel de contrepartie. La finance est autre chose. La finance, elle n'est pas sur le réel. Elle est plutôt sur ce que j'appelle la notion de spéculation. On spécule sur... Alors, je sais que quand j'utilise ce terme-là, il est entaché de tout un imaginaire entre l'avidité, tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui comme type de comportement cynique, etc., sur ces questions-là. Mais spéculer, c'est spéculer sur la prise de risque. Et en fait, la finance, elle n'est pas tellement sur le réel, elle est plutôt sur la projection que l'on va donner sur des trajectoires de prise de risque. Alors c'est le commerce international, c'est des nouvelles technologies, c'est peut-être des nouveaux territoires, hein. Il y a eu des spéculations considérables juste avant la Révolution française, qui ont été du reste à l'origine en grande partie d'un certain nombre de déboires du roi à l'époque. Je pense notamment à ce qui s'est passé sur les titres de la Louisiane.
Hein, évidemment, voilà. Avant sa vente par Napoléon.
Exactement. Et donc, on a eu des spéculations qui valaient largement les subprimes actuels ou les marchés des dérivés, etc. Donc, on spécule sur une prise de risque. Et c'est cette relation entre l'économique qui est sur le réel et la finance qui est sur de la prise de risque qui fait que on va sur des phénomènes plutôt d'accélération, d'amplification, au contraire des phénomènes régressifs et de repli. Et tout se joue, en effet, la relation entre les deux se joue sur la psychologie. C'est-à-dire, on y croit ou on n'y croit pas. Et là, on a beau essayer de manipuler tous les modèles possibles, imaginables, avec tous les instruments mathématiques possibles, imaginables. Là, c'est du ressort de l'intuition humaine. On a envie d'y aller ou on n'a pas envie d'y aller. Et derrière aussi de la manipulation des collectivités, parce que faut mettre en relation la dimension politique, hein, en face de l'économique et du financier. Hein. Et du reste, on fait maintenant de l'économie politique, c'est-à-dire qu'on voit bien que d'un côté il y a des instruments pour évaluer le réel. Et puis cette transformation du réel en richesse, etc. Et puis de l'autre côté, il y a les intérêts des uns et des autres qui sont plus ou moins partisans, qui vont plus ou moins dans un mode de fonctionnement que dans un autre, dans une idéologie que dans une autre, dans une utopie que d'une autre, etc. Et là, par exemple, la crise que l'on traverse, c'est une crise, je dirais. Alors elle est technique, si on peut l'analyser sur le plan technique, mais elle est basée sur des postulats au départ. Qui sont idéologiques. Hein. On a fabriqué une économie du hors-bilan. On a fabriqué une économie du hors-bilan. Pour pouvoir répondre à quoi ? Pour pouvoir répondre à cette explosion de la mondialisation qu'on a permis il y a trois décennies. Et donc, il fallait absolument générer une espèce d'idéologie de la croissance basée sur un endettement et une spéculation hors normes, pour arriver à suivre le rythme. Je dirais de cette croissance mondiale, notamment avec l'arrivée de la Chine, de l'Inde, etc. Et donc des volumes de création de richesses à traiter. Enfin, quand on voit l'explosion des villes, quand on voit, ça c'est des choses très concrètes, hein, l'explosion des villes en Asie, les besoins des populations sur les deux tiers de la planète, il fallait pouvoir générer, je dirais, les instruments qui permettaient cette prise de risque, donc cette spéculation sur un avenir que l'on voyait comme étant, ouais, mais que l'on voyait comme étant extrêmement florissant, etc. Sans prendre garde à des dimensions qui sont des dimensions du réel, c'est-à-dire la gestion des matières premières, la gestion des biens, des compétences, de nos propres outils, etc. Et donc aujourd'hui, on est dans un problème, on est face à une situation de recalage de l'ensemble du système qui s'est emballé, qui n'était plus du tout maîtrisé. Le politique l'a complètement abandonné il y a 15 ans, 15-20 ans. Maintenant, il revient en force en faisant la morale à tout le monde, mais faut quand même voir les choses comme elles sont. Cette dérégulation s'est faite avec son accord, son plein accord.
Avec sa bénédiction.
Même sa bénédiction. Pour ça, je dis qu'il y a derrière cette relation entre l'économique, le financier et le politique, il y a des relations parfois perverses, hein, qu'il faut aussi être capable de prendre en compte et d'analyser. Alors aujourd'hui, on peut couper des têtes sur la place de Grève, jouer à Saint-Just et tout ça, mais bon, il faut raison se garder et à un moment ou à un autre se mettre autour de la table et puis être capable de recaler sereinement et avec sécurité, parce que on est quand même dans des logiques là qui sont quand même limites en termes de sécurité, sécurité financière, sécurité économique, voire même sécurité pour les peuples. Et donc, je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut que le politique, l'économique et le financier se retrouvent et soient capables d'assainir le discours et en même temps la réalité.
Je veux bien revenir sur ce que vous venez de décrire à l'instant, c'est-à-dire l'inscription contextuelle de cette articulation relativement fondatrice, mais en même temps complexe, entre l'économie et la finance. Si je vous comprends bien, cette relation, elle est à la fois consubstantielle et en même temps, elle est liée à un certain nombre de paramètres extérieurs. En particulier, les relations où la finance devient un élément déterminant lorsqu'on est en phase d'expansion, de mondialisation, oui. Où là, on a besoin de créer de la monnaie pour faciliter les échanges. Oui. On sait que les premières périodes de mondialisation, donc le XIVe siècle, la création des doubles comptabilités, effectivement, sont des périodes de découverte de nouveaux territoires, des périodes aussi d'échanges accélérés qui nécessitent justement de se passer de monnaie en créant une sorte de monnaie virtuelle, soit des livres à double compte qui permettent de régler à distance les échanges et puis aussi de gérer ces risques que vous associez à l'instant. On a la même chose au XVIe siècle avec la découverte
mais on avait le temps. C'est-à-dire qu'on avait le temps. C'est-à-dire
voilà. Qu'est-ce qui faisait la singularité de cette époque et qu'est-ce qui fait la différence avec celle qu'on vit aujourd'hui dans cette articulation ?
Même déjà le XXe siècle. C'est-à-dire qu'on parlait de la crise de 29. La singularité de la crise de 29, c'est qu'elle intervient dans une période où on a, depuis la fin du XIXe, on a une formidable poussée de la croissance démographique dans le monde, et notamment dans nos pays européens et aux États-Unis. Enfin, l'Amérique commence à monter en puissance. Et donc, il y a des besoins gigantesques. Et donc, on est le XXe siècle, c'est celui de la production de masse, de la consommation de masse, des guerres totales, du reste. Hein. On a même parlé d'armes de destruction de masse. Enfin, donc, on était dans la massivisation de, je dirais, de la gestion de nos, de notre vie collective, et avec des, en plus de ça, cette culture du progrès qui s'installait derrière ce 18e siècle un peu flamboyant au niveau des idées, mais le 19e a structuré ses idées avec la révolution industrielle.
L'idéologie et le 20e progrès, siècle vraiment l'idéologie du 19e siècle
et le 20e siècle c'était les idéologies de masse qui se sont installées et qu'il a fallu accompagner en termes de prise de risque et en même temps en termes de, je dirais, de maîtrise de la création de richesses. Et la crise de 29 est une des premières grandes crises systémique, justement lié à cette progression, je dirais, de notre biotope, celui de l'Homo sapiens sapiens, qui a réussi à maîtriser un peu la matière et qui a domestiqué et a systématisé, je dirais, ce bonheur sur Terre derrière lequel nous courons en permanence. Bonheur sur Terre qui est en grande partie à l'origine de la sophistication de tous les produits qu'on a développés depuis les 30 Glorieuses pour en avoir toujours plus pour moins cher. Et donc, du taylorisme qu'on a inventé au XIXe siècle, aujourd'hui, on a multiplié toutes les possibilités, d'instruments en termes de prise de risque, de façon à avoir à l'arrivée de plus en plus de confort, de plus en plus de moyens, etc. Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, si vous avez envie de faire un footing, vous allez dans un magasin de, faut bien se rendre compte du niveau de, du style de vie dans lequel nous sommes. C'est de la société de surconsommation. C'est même plus de consommation de masse. C'est de surconsommation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Vous avez envie de faire un footing aujourd'hui. Vous allez dans un magasin de vente de chaussures. On va vous expliquer qu'il vous en faut une pour pouvoir commencer sur le macadam, qu'il vous en faut une deuxième pour pouvoir monter une côte, qu'il vous en faut une troisième pour descendre la côte, qu'il vous en faut une quatrième pour traverser la rivière et qu'il vous en faudra une cinquième après pour marcher dans la rue. Donc, et on est,
Nous sommes aujourd'hui, nous occidentaux, entre autres, hein, dans cette société du déballage de marques, de moyens, etc. Et tout ça, il a fallu le financer, le développer, etc. Et on l'a fait au travers, de toute cette ingénierie financière un petit peu extravagante qu'on a montée ces dernières années, qui ont permis de pouvoir soutenir et financer cette société extrêmement sophistiquée en termes de consommation. La première crise de 1929 a été celle du calage et du recalage d'une société de masse, celle que nous vivons aujourd'hui, et le recalage d'une société de surconsommation. Et la gravité de la crise que nous vivons aujourd'hui, c'est que, d'abord, les effets d'échelle n'ont rien à voir avec ceux de la crise de 1929, puisqu'on parle parfois de même des chiffres qui sont hallucinants, qui circulent sur le marché aujourd'hui. Les fameux marchés, sur les marchés dérivés, on parle de 10 fois le PIB mondial qui aurait été reprêté, etc.
40 fois même, on a cité le chiffre.
Oui, enfin maintenant plus personne ne sait exactement quels sont les vrais chiffres. Et on est vraiment confronté. Alors qu'en 1929, on était confronté à une crise de spéculation, là on est confronté à ce que j'appelle une crise du hors-bilan. C'est-à-dire qu'on a fait croire à nos sociétés qu'on était capable de pouvoir créer de la richesse, mais sans que ce soit équilibré au niveau du bilan. C'est-à-dire qu'on a sorti toutes les prises de risque, on les a sorties du bilan, et on les a évacuées avec
titrisation,
etc., à l'extérieur. Et puis aujourd'hui, il y a recalage des comptes de la... par rapport à une réalité qu'il faut reprendre en compte, le problème des matières premières, le problème des vrais besoins des populations, le problème du développement durable qu'on évoque, enfin avec le changement climatique, etc. Enfin, il y a un certain nombre de contraintes qui s'imposent, qui obligent de remettre un petit peu les choses au carré.
Donc, ce que je retiens de votre intervention, c'est qu'effectivement, si les crises sont inscrites dans le mécanisme même du capitalisme, elles sont en même temps contextualisées par un certain nombre de contraintes ou de paramètres extérieurs qui changent elle de nature à chaque fois. Et ce que vous mettez en avant, c'est donc le fait qu'on est passé d'une économie de production, peut-être celle du 16e, 17e ou encore du 19e, à une économie de surconsommation, entre autres motivée par le désir mimétique, c'est-à-dire l'idée de ressembler à l'autre. Ça veut dire donc qu'on a des paramètres anthropologiques fondamentaux qui se cachent derrière la manière dont on définit le comportement économique. Alors justement, est-ce qu'on est encore en face d'un homo economicus? Ou est-ce qu'on est passé à quelque chose d'autre qui serait une sorte d'homo mimeticus? Qu'est-ce qui fait le moteur des économies de la deuxième moitié du XXe siècle et qu'est-ce qui les distingue des économies du début du XXe siècle ou du XIXe ou du XVIIIe?
Les économies du XIXe siècle étaient plutôt des économies qui étaient assises sur une certaine ruralité et donc où la relation avec le réel était encore très importante. Celle du XIXe furent celles des révolutions industrielles.
Oui, qu'on a eu plusieurs. La révolution industrielle.
Il y en a même eu plusieurs. On a plusieurs révolutions industrielles dans la révolution industrielle. Et où là, il y avait encore quand même un attachement à une certaine réalité. Mais on commençait à rentrer dans une certaine complexité. Parce que une usine, c'est pas comme, si vous voulez, une ferme où vous avez une certaine autonomie de fonctionnement. Une usine, elle est interdépendante. Il y a des logiques d'approvisionnement qui peuvent être extérieures au pays.
Vous ne contrôlez pas l'ensemble du cycle.
Et puis, une usine, elle est dépendante d'une logistique extrêmement importante. Il lui faut des infrastructures critiques importantes. Et les produits de l'usine, eh bien, ils ne sont pas tellement destinés à une certaine ruralité. Ils sont plutôt destinés à une urbanité. Et donc, c'est toute une économie qui s'est faite autour du fait urbain et notamment d'une vie collective qui n'a pas avec plus aucune référence aux valeurs du monde rural qu'on a connu au XVIIIe ou voire même dans la grande majorité du XIXe siècle. Là, la société dans laquelle nous rentrons, c'est autre chose. C'est une société qui est déjà très urbanisée. Nos sociétés occidentales sont à 80% urbanisées. Le monde est aujourd'hui à 40% urbanisé et on va vers 60%. Je vous parlais de l'évolution démographique sur le XIXe siècle. Il y a quasiment eu un doublement de la population mondiale sur le XIXe siècle qui explique toute cette folie spéculative qu'on a connue pour accompagner le développement de l'économie. Mais là, sur ce début du XXIe siècle, nous continuons, la progression démographique continue.
Et elle continue. On parle de 9 milliards d'individus en 2020.
Oui, tout à fait. Donc,
Et je dirais qu'une grande partie, 30, oui. Une grande partie de cette économie du hors-bilan est basée sur justement cette spéculation sur la prise de risque de ce que sera la société de demain. Et cette société de demain qui va encore, ça va encore plus vite qu'au XXe siècle, elle est basée sur quoi? Elle est basée essentiellement sur une économie immatérielle. C'est-à-dire qu'on est passé d'une économie où on transformait de la matière en vue de créer de la richesse pour une certaine vie collective de type urbaine, aujourd'hui une économie qui est dans l'immatériel, beaucoup dans l'immatériel, qui fonctionne en réseau, et pas forcément uniquement sur une ville, mais une multiplicité de centres de vie et de décision, hein, et avec un temps de maturité et de traitement de la transaction qui est infiniment plus rapide que tout ce qu'on a pu vivre au XXe siècle. Enfin, faut voir que la révolution qui s'est passée en l'espace de 20-30 ans, là, par exemple, sur la notion de transaction, et y compris derrière sur la notion de risque, c'est une révolution sans pareil, quoi. Et aujourd'hui, c'est le problème du recalage entre une société qui est issue de ce monde du matériel, hein, de la matérialité, à une société de l'immatériel avec des modèles de compréhension ou même de validation de ce qu'est l'économie réelle qu'on n'a pas stabilisé, quoi, ni sur le plan de la science, ni sur le plan de la réflexion, ni même sur le plan de la conduite politique.
De l'action. Hein? Alors précisément, où se situe la rupture ou quelles sont les grandes étapes de cette évolution qui nous fait basculer en quelque sorte d'une économie réelle relativement centrée sur l'industrie, et on peut dire effectivement que 1929 est encore une crise du modèle industriel, à une économie qui devient une économie essentiellement dématérialisée. Est-ce que c'est l'introduction des supraconducteurs, des transistors? Est-ce que c'est l'introduction de l'informatique? Est-ce que c'est l'apparition d'Internet? Est-ce que c'est tout cela à la fois?
Moi, je veux Jean-Pierre Rondon. Juste dire que je me demande si on n'est pas, on part pas un peu à côté, parce que d'abord, je ne crois pas que la crise aujourd'hui soit la crise du hors-bilan. Le hors-bilan, ça ne concerne que les banquiers. C'est-à-dire qui ont aujourd'hui le problème effectivement de la crise, c'est la crise financière, c'est la crise des banques. Et c'est la crise des banques parce qu'elles ont effectivement fait des placements qui souvent n'apparaissaient pas dans leur bilan, ce qui leur permettait de prêter plus ou en tout cas de pas prêter moins. Bon, ça c'est la première chose.
Vous avez même des États qui le font.
La deuxième, des États et des collectivités publiques. Voilà. La deuxième chose, et aussi malheureusement des particuliers, des caisses de retraite et autres à travers des produits qu'on appelle les hedge funds ou les produits dérivés. Mais déjà, il existe deux types de crises et on a un peu mélangé un peu vite, il y a les crises économiques et les crises financières. Et aujourd'hui, la crise économique, c'est le ralentissement qui est logique. Et tout à l'heure, mon voisin de gauche l'a dit, ça fait partie du cycle économique tout à fait normal. On a des périodes de hausse de l'économie et on a derrière des ralentissements. C'est une courbe vallonnée, je dirais, et c'est quelque chose qui se suit.
Le fameux cycle du juglar et contre-attiède.
Voilà. Et malheureusement, on a voulu nier on a voulu le nier notamment à partir de 2001-2002, quand les États-Unis ont eu très peur d'une récession et ont connu un ralentissement. En 2001, c'était donc attentat de New York. Derrière, c'était le deuxième crack après celui des TMT de 2001. Et en 2000, technologie média, téléphonie, et l'emballement qu'on avait eu. Et là, on retombe sur la notion de bulle. Donc là, voilà un bon exemple d'ailleurs. 2001, c'est une crise c'est une bulle, c'est la bulle des TMT. 2000, mars 2000. Et 2001 et 2002, c'est la peur, panique. Alors 2001, peut-être à cause des attentats. 2002, c'est le ralentissement très fort aux États-Unis. On a voulu nier donc ce cycle économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on tombe de plus haut quand on continue à monter au lieu de redescendre un peu. Eh ben, on va tomber de plus haut. Et donc, on a voulu nier cela en prétextant notamment le développement de pays comme la Chine, l'Inde, etc., qui allaient sauver. On était dans une structure structure économique qui était tout à fait différente dans l'histoire. Jamais on n'avait connu ça, d'après les beaux-parleurs, bien entendu. Hein. Et donc on connaîtrait pas, le monde ne connaîtrait pas de récession. Et c'est d'où là que intervient Monsieur Greenspan en 2001-2002, en faisant baisser les taux de façon extraordinaire aux États-Unis, hein, à 1%, de façon à stimuler, comme disait mon voisin, de façon à stimuler, à continuer à stimuler la consommation. Maintenant, il y a de l'autre côté, il y a la bulle dont aussi, excusez-moi, je retiens pas votre nom, mais Monsieur Jean-François Susbiel a parlé, c'est les fameuses bulles qui sont celles de l'immobilier, qui sont celles des actions qui montent et qui ne montent pas jusqu'au ciel, etc. Et puis de produits matières premières ou autres, et qu'on retrouve effectivement dans ces placements qu'on a dispersés dans le monde sans savoir où ils sont aujourd'hui. Hein. Et donc ça, c'est un autre type de crise qui, là, est une crise financière. Et la crise financière aujourd'hui, elle existe non pas, à mon avis, parce qu'il fallait continuer à pousser l'économie mondiale, etc., parce que ça existait. Les subprimes, par exemple, ça a été fait, c'est des crédits qui ont été favorisés à des taux bas et qui ont été favorisés non pour les Américains eux-mêmes, ça n'était pas pour aller favoriser spécialement des échanges dans le monde entier. Mais par contre, le fait que l'immobilier marchait aux États-Unis, ça permettait de dire que l'emploi était bon, etc., etc., et que les Américains allaient continuer à consommer. Donc aujourd'hui, la correction, elle est double, parce que se conjuguent deux corrections, une crise financière grave, et d'un autre côté, une récession qui aussi va être très grave. Voilà ce que je voulais dire.
Oui, juste pour apporter un complément à ce que disait Jean-Pierre Rondeau, la crise actuelle, si on la compare à la crise de 2001-2002, c'était une crise boursière, c'est-à-dire que les valeurs technologiques basées sur l'Internet, les nouvelles technologies, enfin sur l'Internet en particulier, avaient atteint des valorisations complètement délirantes, c'est-à-dire que des sociétés qui faisaient 10 ou 20 millions de chiffre d'affaires étaient valorisées 10 milliards, et alors qu'elles faisaient des pertes de 100 millions de dollars. Vous voyez, enfin c'était et tout le monde le savait, encore une fois, je veux dire, il ne faut pas être grand clair pour dire qu'il va y avoir une crise. Tout le monde disait il va y avoir une crise. En 96, en 97, Alan Greenspan avait parlé d'exubérance irrationnelle, je crois que c'était en 96, hein, c'est-à-dire avant la grande montée de la bourse, du Nasdaq en particulier, qui était à 5200 points, je crois, au début de l'an 2000. Donc c'était une crise boursière en 2001, en 2000, 2001, 2002, jusqu'en 2003, et surtout ce qui la caractérise, c'est que c'est une crise en V. C'est-à-dire qu'on a chuté très brutalement, mais on savait toujours, on voyait toujours l'autre côté du ravin. Si vous voulez, on savait qu'on allait remonter parce que finalement, là, il n'y avait pas de pessimisme ambiant. Et puis on savait que l'Inde et la Chine étaient rentrées dans le processus industriel et de création de richesses, et qu'il y avait des tas de relais, et que même l'Internet constituait en soi la promesse de gains de productivité tout à fait formidable. Donc c'était une crise en V. La crise aujourd'hui...
Donc c'est là que l'aspect financier, en quelque sorte, rejoint l'aspect économique, c'est que peut s'appuyer sur les fondamentaux économiques pour dire on va avoir
oui,
une projection
voilà,
plutôt optimiste,
exactement.
Donc on va rebondir.
Exactement. Le plongeon des bourses, quand même, il faut se souvenir que le Nasdaq est passé de 5200 points à 1200. Le plongeon a été même le CAC, voilà, le CAC est passé de presque 7000 à 2004, hein, c'est ça. Donc, mais c'était une crise en V, c'est-à-dire que on voyait toujours où était l'autre côté du ravin. On savait qu'on était dans un ravin, qu'on chutait, mais on voyait quand même l'autre côté. Il n'y avait pas un pessimisme comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise qui est une crise on appelle ça en L, hein, je crois. Enfin, à mon sens, c'est-à-dire qu'on voit pas, et on voit pas comment on va en sortir, de quelle manière on va en sortir. Bon, on peut rester quand même optimiste pour l'humanité et se dire qu'on va en sortir un jour. Mais ce qui la caractérise, c'est qu'on ne voit pas l'autre côté du ravin. On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Ce que je voulais dire aussi, ce que vous avez dit, Jean-Pierre, c'est sur le mirage aussi du découplage. on a aujourd'hui les États-Unis où la finance américaine est en crise, mais il y a un découplage aujourd'hui parce que les économies émergentes, la Chine en particulier et l'Inde, sont auto-entretenues et marchent à une telle vitesse, le train va à une telle vitesse que ce ne sont pas des aléas comme la crise des subprimes, ce qui était en 2007, c'est pas ça qui va les faire dérailler. On se rend compte qu'il n'y a pas de découplage et que même les économies émergentes aussi fortes en apparence que la Chine et l'Inde, eh bien, souffrent et vont certainement continuer à souffrir. Alors on a parlé, je me souviens aussi souvent, mais c'est dans toutes les bulles. On vous parle toujours de nouveaux paradigmes. C'est-à-dire on vous dit toujours, avant, effectivement, il y a eu une crise, mais là, c'est différent. D'abord, les technologies de l'information, l'Internet, c'est un truc différent, c'est un nouveau paradigme, et ça va monter, continuer à monter. Vous inquiétez pas si les sociétés qui valent des milliards font des centaines de millions de pertes. En fait, la valorisation est basée sur autre chose, sur le nombre de, vous vous souvenez, le nombre d'internautes qui visitaient les sites, et c'est ça qui justifie les valorisations de plusieurs milliards. Donc, le nouveau paradigme. Tous les nouveaux paradigmes, en fait, ont échoué. En fait, l'économie est plus forte que les nouveaux paradigmes. Oui, il y a des révolutions industrielles, hein, celle de 1830 basée sur le charbon, la métallurgie, celle de 1870, l'électricité, le téléphone, etc. Oui, il y a eu une nouvelle révolution industrielle avec les technologies de l'information, avec l'informatique, le PC, on peut dire vers 1980 en gros, et puis ensuite les réseaux, mais ça n'empêche pas qu'il y a des règles économiques, il y a des lois économiques.
Il y a des constantes de la nature, constantes de l'économie.
Voilà, ce qui fait qu'une crise reste une crise, et il n'y a pas de nouveau paradigme qui font que la crise, on peut s'en passer.
Alors précisément, là, pour revenir à cette crise de 2000-2001, je me souviens très bien des discours. Comment se fait-il qu'en dépit de la fausseté, en quelque sorte, de ce discours sur les nouveaux paradigmes, il passe quand même? On expliquait typiquement, on avait une entreprise comme France Télécom qui aujourd'hui cotait 7 ans après, autour de 18 ou 15 euros, et qui montait jusqu'à 100, on la projetait même à 150 ou 200 euros. Alors qu'évidemment, elle a cru entre les deux. Et donc ça veut dire une chute de...
Elle est montée à 150.
Elle est montée à 150, donc ça veut dire qu'on a divisé par 10 la valorisation de l'action. Alcatel était quasiment à 100 euros, il est aujourd'hui à moins de 2 euros. Et on avait aussi des fusions de type AOL, Time Warner, où c'était le tout petit sur sa modeste embarcation, AOL, avec ses quelques internautes, qui rachetait l'énorme paquebot Time Warner. Et vous expliquez, mais c'est justement le paradigme de la nouvelle économie, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout sur les mêmes schémas, sur les mêmes modèles. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de vrai dans ces discours et qu'est-ce qu'il y avait au contraire de faux? Comment se fait-il qu'ils aient pu marcher un certain temps?
De vrai, c'est que oui, les réseaux et l'Internet qui permet de relier les individus du monde entier, oui, c'est une vraie révolution industrielle. On peut la faire remonter à l'informatique, à la micro-informatique, au PC, à 1980, dire que les réseaux, c'est une extension en fait de l'informatique, mais oui, ça, c'est une vraie révolution industrielle. C'est la troisième. Cela dit, dire que la valorisation de ces sociétés peut monter jusqu'au ciel et que ça ne va pas s'arrêter parce qu'il y a un nouveau paradigme, ça c'est faux.
Donc, pourtant, on l'a dit, et on l'a répété.
On l'a dit encore il y a 6 mois, il y a 1 an.
Tous les bulletins d'information, je me souviens de Jean-Pierre Gaillard sur France Info à l'époque, c'était « demain, nous allons encore faire 2% de croissance ». La bourse semblait effectivement monter indéfiniment parce qu'on nous expliquait que, justement que c'était nouveau, tout nouveau, tout beau, et donc on était sur une logique totalement différente.
Mais moi, j'aimerais revenir sur ce que vous aviez évoqué là, parce que quand je parle de la crise du bilan, pour moi, c'est une formule réductrice, mais je parlais surtout moi de la crise du modèle mental dans lequel nous sommes, parce que si on se contente de parler de la crise bancaire, enfin financière, bancaire, boursière, etc., on va s'enfermer dans des silos de pensée sans voir exactement ce qui est beaucoup plus large, beaucoup plus grave, qui est cette crise du modèle mental que révèle ce soubresaut, ce nouveau soubresaut. Parce que nous en avons eu plusieurs, vous les avez évoqués, plusieurs bulles spéculatives qui ont explosé les unes derrière les autres, etc.
Depuis les bulles de Philippe.
Oui, mais ça fait depuis 30 ans qu'on passe notre Occident, enfin tous les, je dirais, les riverains de l'Atlantique Nord en grande partie, qui sont ceux qui sont à l'origine de toute cette ingénierie
financières, enfin, que ce soit Wall Street, Chicago, City, ou dans nos quelques petites places financières européennes. Bon, on est à l'origine de cette espèce de, je dirais, de d'effervescence. On essaye de chercher sur quel bout de paradigme, en fait, va se jouer le changement d'ère. Parce que, en fait, on est sur une période où on est en train de changer d'ère. On est en train de quitter cette ère de la modernité qui s'est inventée quelque part du côté de ce qu'on appelle la Renaissance dans notre histoire. Et on est en train de rentrer dans une autre ère dont on n'a pas encore complètement, je dirais, les tenants et les aboutissants. Et nous sommes dans cette phase de transition où il est difficile de fixer des logiques d'investissement ou des prises de risque sur quelque chose. On ne sait pas trop si c'est durable, pas durable. Parce que quand vous parlez, par exemple, de toutes ces technologies d'information et de la communication, ce sont des technologies éphémères. Je me rappelle très bien avoir j'ai eu des responsabilités dans le groupe Schneider Electric pendant pas mal d'années, et on avait une division qui s'appelait Schneider Automation. Les gars qui travaillaient chez Schneider Automation inventaient des automates, et ce sont des automates qui sont présents dans tous les systèmes les plus complexes au monde, tous les aéroports, tous les systèmes qui sont interconnectés les uns avec les autres, et qui sont à la base de toutes nos logiques de vie aujourd'hui, surtout ce qu'on appelle les hubs stratégiques, et qui permettent une coordination entre toutes ces infrastructures critiques. Eh bien, alors, la durée de vie des produits, alors que c'était des investissements colossaux, c'était 6 mois. Au bout de 6 mois, c'était fini. C'était déjà obsolète. Et alors qu'on croyait qu'on allait développer pour longtemps de la richesse sur le plan, des innovations ou des développements qu'on allait faire, ben non, il y avait une autodestruction de la richesse créée qui était plus rapide que dans un cycle normal qu'on avait sur le plan industriel. Et donc, c'est difficile de stabiliser des investisseurs ou des gens qui veulent prendre des risques en leur disant, ben écoutez, oui, vous êtes sur la bonne trajectoire. Ben non, manque de bol. 6 mois après, c'est déjà obsolète, il faut réinvestir. Et donc, beaucoup sont allés sur ces phénomènes un petit peu... J'ai bien aimé les termes de promesses que vous évoquez, sur ces promesses du moment, quoi. Mmh. Oui, là, ça va démarrer. Là, ça va vraiment démarrer. Allez sur les télécommunications ou allez sur l'Internet. Là, vraiment, c'est le démarrage. Hein. Un petit peu comme quand on allait sur le chemin de fer ou quand on allait sur les tulipes à un moment donné. Parce qu'il y a eu une spéculation sur les tulipes célèbres, les bulles de tulipes qui étaient célèbres. Et donc, vous avez une espèce d'effervescence, mais qui n'est pas rationnelle, qui n'est pas raisonnée. Parce que vous n'avez, dans cette période transitoire entre deux grandes ères, on ne sait pas exactement on sait ce qui est condamné, on le voit bien. On voit bien que, par exemple, le secteur de l'automobile aujourd'hui, issu de la grande révolution industrielle, il est sur sa phase d'obsolescence. On ira sur une autre motricité demain, parce que de toute façon, la motricité est à la base, je dirais, en grande partie de nos modèles de création de richesse, notre modèle mental de création de richesse. Mais entre les deux, vous investissez sur quoi? Vous investissez sur la fusion froide, vous investissez sur la pile à combustible, vous investissez sur le bio, vous investissez sur quoi? Et donc, les gens, aujourd'hui, ils essayent de trouver l'effet de levier. Et je pense que, si vous voulez, la crise que nous traversons aujourd'hui, c'est une crise de spéculation sur ces problématiques d'effet de levier, et où on a personne qui est capable, ni sur le plan technique, ni sur le plan technologique, ni sur le plan scientifique, et encore moins sur le plan politique, d'essayer de raisonner les gens. Donc, vous êtes dans quoi? Vous êtes dans la psychologie du camelot. C'est celui qui
le plus de bruit.
C'est celui qui fait le plus de bruit, qui vend le mieux qui vend le mieux son affaire, qui fait le meilleur marketing, hein, qui l'emporte. Et aujourd'hui,
excusez-moi, mais c'est pas ça la crise aujourd'hui. Vous avez raison sur tout ce que vous dites, et ça s'est passé dans toutes ces dernières années. Mais la crise actuelle, ce n'est pas ça. La crise actuelle.
Là, nous étions dans l'horizon général.
Ouais,
oui,
général, mais prise de recul. Mais aujourd'hui, puisqu'on vient de parler de l'automobile, par exemple, enfin, pour moi, elle n'est pas morte. Et on l'a vu à travers ce qui vient de se passer avec Porsche et Volkswagen. Enfin, il y a des gens qui croient encore à l'automobile, et les investisseurs classiques, les investisseurs ont investi dans des actions et dans des sociétés parce que justement elles amenaient des biens de consommation, parce qu'elles amenaient une évolution de la société, etc., et qui a été d'ailleurs magnifique ces dernières années quand même. Il faut le reconnaître, puisque c'est le monde entier qui a évolué. Mais la crise aujourd'hui, donc, elle est une crise de récession dont j'ai dit que c'est un cycle normal d'économie. Et derrière, il y a une crise financière, donc d'accord, mais qui n'a rien à voir avec ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on a créé une économie virtuelle. On a créé, quand, par exemple, on parle des hedge funds.
Un auditeur nous demande de rappeler la signification de ce terme. Hein. Donc, ce sont des produits de retraite,
pas du tout. Pas du tout. Ce sont en fait, les hedge funds sont en fait des fonds d'investissement dans lequel je parle pour les clients pour certains auditeurs de Radio Courtoisie qui essayent de comprendre. Ce sont donc des fonds communs, des fonds qui sont en fait des paris. On a parié sur tout. Et c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout parié sur l'économie d'une société ou sur ce qu'elle allait produire ou ce qu'elle allait faire. Quand on parie par exemple à la baisse d'un titre, on se porte donc emprunteur d'un titre qu'on paiera plus tard parce qu'on pense le payer plus tard beaucoup moins cher. On parie pas du tout. Ça n'a aucun intérêt économique. C'est juste un pari que l'on fait sur. On joue à la baisse un titre et c'est comme ça qu'on le casse d'ailleurs, puisqu'on le fait baisser. Dans le cas qui vient de se passer de Volkswagen, on a vu tout d'un coup un titre dont on avait peur qui soit très raréfié sur le marché, et on avait des gens qui s'étaient portés à la vente sur ce titre-là et qui ont été obligés de le racheter en catastrophe, ce qui a fait monter de façon extraordinaire la bourse. Mais c'est ça, la crise aujourd'hui, c'est ça. Quand on se porte sur des obligations pourries parce qu'on pense que, ou en tout cas qui deviennent pourries parce que on a un taux meilleur et en prêtant, en sachant qu'on prête à des gens qui pour partie ne pourront pas rembourser, mais uniquement parce qu'on pense avoir un taux de rendement meilleur que sur une obligation classique, à plus forte raison sur un emprunt d'État. Voilà ce qui s'est passé. Ça, c'est pas de l'économie. Ça a été effectivement une folie furieuse des banques notamment et de l'ensemble du monde financier qui, à travers les mathématiciens dont je parlais tout à l'heure, se sont mis à créer des produits dont aujourd'hui plus personne ne sait où ils sont, comment ils sont placés, etc. Et il est possible, vous voyez, la bourse américaine va fermer tout à l'heure, et bien il est possible qu'en fin de soirée elle baisse de 10% d'un seul coup, alors que là elle est, quand j'arrivais ici, elle devait être en hausse de 1 point, je crois. Il se peut qu'elle baisse de 10% parce que on est le 30 octobre et que le 30 octobre c'est un dénouement de position de hedge, et que donc certains vont peut-être être obligés de vendre en catastrophe pour rembourser, parce que il faut savoir que quand quelqu'un met 100 dans un hedge, le banquier jusqu'à maintenant prêtait de 10 fois plus, voire 18 fois plus. C'est-à-dire qu'avec 100, on investissait 1100. Et c'est ce qu'on appelle l'effet de levier dont on parlait tout à l'heure, ce qui permet donc d'investir de façon totalement affolante, quoi. Hein. Donc, aujourd'hui, peut-être à l'heure qu'il est, la bourse américaine va peut-être baisser de façon 10%. Et ça, c'est pas du tout de l'économie. Ça n'a rien à voir avec l'expansion économique du monde. Par contre, ça a à voir avec la mondialisation, et ça a à voir beaucoup avec les techniques de communication. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, on n'est plus coupé pays par pays et chaque pays pouvant avoir ses problèmes. C'est qu'aujourd'hui, c'est l'aile du papillon, hein, quand on touche à quelque chose quelque part, ça a des répercussions un peu partout dans le monde.
Oui, les produits dérivés, ce qu'on appelle les produits dérivés, sont à la base des produits d'assurance. C'est ça qu'il faut savoir. C'est-à-dire que les marchands, les gens qui font du commerce international, veulent se prémunir, par exemple, contre les variations d'une monnaie, parce qu'ils ont acheté des matières premières ou n'importe quoi à un prix et qui doit être livré dans 3 mois. Ils veulent s'assurer, ils veulent se protéger contre le fait que s'ils l'ont acheté en yens ou en dollars, ils veulent se protéger contre le fait que le yen ou le dollar peut monter ou baisser. payer, enfin, surtout dans le mauvais sens, et qu'à ce moment-là, ils aient à payer plus cher.
Il faut être précis, parce que pour pas brouiller l'auditeur, oui. il y a ce qui est le domaine de l'économie réelle.
Oui.
Donc,
oui. Oui, non, non, mais au départ.
Il y a ce que vous évoquez, c'est le domaine de la contrepartie ou de l'assurance ou de la réassurance, qui font partie de choses que l'on maîtrise dans la relation entre le monde économique et le monde financier. Et puis, il y a ce que vous évoquez, qui est de l'ordre du casino, avec des martingales. C'est autre chose.
Pour que les auditeurs comprennent, c'est que ces produits, à la base, sont des produits financiers qui ont été créés dans un but pratique.
Au début, c'est le marché sur lequel ils interviennent.
Oui.
Vous avez raison, le marché est un marché utile.
Oui, les CDS, par exemple.
Mais quand vous êtes dans un hedge fund, à ce moment-là, c'est un produit qui a été
créé
pour utiliser de façon spéculative.
Disons qu'un hedge fund utilise des produits normalement d'assurance qui sert à prémunir des gens qui font du commerce.
Pas comprendre avec l'assurance vie. Hein.
Non, mais ce sont des produits d'assurance. Une option, c'est un produit qui permet de se protéger contre la variation d'un actif ou les CDS, par exemple, les credit default swap. Il paraît qu'il y en a 40 000 milliards de dollars de ces trucs. Ce sont des produits d'assurance. Lorsqu'on prête quelque chose à quelqu'un, eh bien, on veut se protéger contre un risque de défaut de paiement. Donc, on achète une assurance à quelqu'un.
Oui. D'où le fameux couple risque-rendement.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il y avait la contrepartie du risque élevé, c'était éventuellement un rendement élevé. Qui permettait
Ce sont des produits qui ont effectivement des effets de levier formidables, qui à la base ont été faits pour s'assurer, pour se prémunir contre un risque, mais parce qu'ils offrent des effets de levier considérables, eh bien, des financiers dont le seul but est de faire de l'ingénierie financière et de gagner de l'argent sur l'argent, eh bien, utilisent ces produits-là à fin de spéculation, pour dégager des grands profits sur ces hedge funds qui sont des fonds à risque.
Une grande compagnie mondiale d'assurance, mais on a vu tous ces banquiers qui ont préféré faire travailler 10 types dans une salle de marché ou 20 types dans une salle de marché plutôt que de faire travailler leurs 40 000 guichetiers ou vendeurs d'assurance.
Aujourd'hui, on arrive même à avoir un paradoxe. Vous avez des investissements de banques qui sont extrêmement luxueuses et qui ont des armées de traders et de financiers qui sont tous derrière leurs écrans plats à travailler sur des modèles mathématiques, vous en reparlerez, et puis vous arrivez dans un guichet de banque aujourd'hui et vous avez que des automates avec plus personne qui est capable de vous parler et de vous expliquer quoi que ce soit, et quand vous voulez souscrire à quelque chose, vous avez des produits qui sont devenus illisibles, ou voir des gens au téléphone qui sont sur des plateformes d'appel qui sont inaudibles. Par rapport à ce qu'on évoque, il y a combien de banques dans le monde? Est-ce que vous savez à peu près?
Je cale.
Voilà. Il y a combien de
paradis fiscaux, ça va.
Oui, non, mais combien de banques et combien de hedge funds aujourd'hui recensés?
Ah, c'est dans les 10 000, c'est ça?
On est entre 10 et 13 000. Entre 10 et 13 000. Est-ce que vous savez qu'à peu près, grosso modo, quel est le niveau d'engagement de ces hedge funds aujourd'hui? On estime que ce serait autour de 50 000 à 60 000 milliards de dollars. Donc on est. Depuis le mois de mai, on estime que la bourse a perdu à peu près 28 000 milliards, c'est les chiffres officiels. C'est-à-dire grosso modo l'équivalent du PIB des États-Unis et de l'Europe. C'est-à-dire que tous les pays riverains grosso modo, toute la richesse créée en termes de PNB, dans notre comptabilité de base, par les plus grosses puissances du monde aujourd'hui, auraient été consommées en 5 mois équivalent de bourse.
À noter que ces hedge funds, donc qui sont, faut vous dire, ce sont les plus puissants. Ils sont surtout dans les paradis fiscaux. On ne sait pas trop où ils sont, mais ce ne sont pas les grosses banques américaines dont l'un des représentants est aujourd'hui secrétaire au Trésor, Hank Paulson. C'est l'ancien dirigeant de Goldman Sachs qui fait aujourd'hui la pluie et le beau temps aux États-Unis. Alors, ce qui s'est passé, c'est que justement ces fonds à risque spéculatif se sont attaqués aux banques américaines et donc ont misé, ont fait des ventes à découvert des options à la baisse sur ces banques, et que les États-Unis n'ont pas aimé ça du tout.
Non.
Et qu'ils sont en train d'écrémer tous ces hedge funds qui sont cachés dans des paradis fiscaux. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est justement ça. C'est que ces hedge funds, ils sont pris à la gorge, ils sont asphyxiés, ils sont obligés de déboucler justement les positions, de vendre les actifs vendables aujourd'hui. Donc c'est pour ça que vous avez ces variations énormes à la bourse.
Le yen, par exemple.
Le carry trade,
À cause du carry trade, les opérations
Donc on empruntait à 0,5% au Japon, en yen du moins, et pour se replacer à 6% en dollars il y a un peu plus d'un an. Hein. Et donc eh bien, quand le dollar s'est mis à baisser, on a maintenu les positions, on les a reportées parce que les banquiers étaient plutôt complaisants en matière de crédit, puisqu'ils avaient prêté donc pour les effets de levier. Hein. Mais aujourd'hui, le dollar s'est mis à monter et le yen monte encore plus. Donc, sauf qu'il s'est corrigé, c'est un peu ces derniers jours. Mais donc aujourd'hui, certains sont obligés de dénouer leur position, d'où le rapatriement, donc la vente de dollars pour acheter du yen, pour rembourser les emprunts en yen. Donc,
et le meilleur est devant nous. Hein. Et le meilleur est devant nous.
Dire le pire.
Je pense que moi, je reviens toujours, c'est cette prise de recul. Hein, oui, je suis désolé, mais. On a affaire à une crise qui est sans précédent parce que la crise de 29 était spécifique, je dirais, à ce qu'on a vécu au 20e siècle. Et là, on est en train d'en inventer une spécifique à ce début de 21e siècle et à un environnement qui n'a rien à voir avec celui de 29. Ce monde interconnecté que vous évoquez, interconnexions qui sont en grande partie liées à cette révolution, ce changement de, pour moi c'est un changement d'air complet, hein. Cette capacité, cette possibilité qu'on a au niveau aujourd'hui des systèmes d'information au niveau mondial, qui permettent du reste que l'information circule à une vitesse qui est de l'ordre des 2-3 secondes, hein, c'est-à-dire
l'information et la désinformation,
c'est-à-dire que donc on est sur des phénomènes psychologiques beaucoup plus forts que ce qu'on a pu connaître en 29. Et donc moi j'aimerais que l'on s'intéresse au problème de la qualification de cette crise. Et alors je vais prendre une métaphore parce que je trouve que j'ai vécu de très près l'affaire de Katrina et tout le retour d'expérience de cette affaire-là.
Et Katrina, rappelons-le.
Katrina, c'est le cyclone qui a détruit le quatrième port au monde, le port de la Nouvelle-Orléans, et un hub stratégique pour les États-Unis, puisque c'est dans ce couloir du Mississippi que s'écoule toute la production du Nord, hein, des Grands Lacs et du Greenbelt. Donc c'est un point stratégique aux États-Unis. Et du reste, on a bien vu que ça avait mis à genoux quand même la première puissance mondiale en quelques heures. Hein, en quelques heures. Et alors, j'ai bien aimé, moi, cette analyse de Tad Allen, l'amiral Tad Allen, qui était le patron des Coast Guard, qui est devenu après très rapidement le patron de la FEMA, l'équivalent de la sécurité civile américaine, et qui dit la chose suivante. Il dit, notre modèle mental était préparé pour gérer un ouragan, comme d'habitude, quoi. C'est comme nous, nos modèles mentaux sont actuellement câblés pour gérer des bulles spéculatives. Hein, on en a eu plein, donc on a tous les éléments pour pouvoir les régler et essayer de calmer le jeu.
On essaie de l'inconnu au connu.
Voilà. Et il dit donc, pour tout le monde, c'était un ouragan. Voilà, un ouragan. Sauf que les météorologues l'avaient classé quand même 4-5. Et que 4-5, c'est pas un ouragan normal. C'est un ouragan hors norme qui va produire des catastrophes quand même gigantesques sur le collectif. Mais dans le mental de tout le monde, c'est un ouragan normal. Donc on met les pompiers, les SAMU, les machins, tout ça, aux endroits habituels, etc., pour traiter l'élément dimensionnant d'un ouragan normal, c'est-à-dire le vent et la pluie. Voilà. Sauf que l'élément dimensionnant, quand vous êtes face à un classe 5, eh ben c'est ni le vent ni la pluie, c'est la mer. C'est la mer qui est poussée par la force du vent qui se forme et qui vient déferler sur les littoraux avec un mur de 10 mètres de haut. Et à ce moment-là, vous changez, la nature change de crise. La crise change de nature. C'est-à-dire que c'est plus votre petit outil de réponse qui va faire la différence, c'est vos digues qui tiennent ou qui ne tiennent pas. Et les digues, vous les avez entretenues ou vous ne les avez pas entretenues? Et les digues, là, on est exactement dans la même situation. Tout le monde est parti sur, en termes d'éléments dimensionnants, cette affaire, c'est une crise spéculative immobilière, subprime, et puis peut-être un petit peu de consommation aussi, parce qu'il y a la crise du revolving par derrière, qui est liée à la récession qui s'installe, où les gens ne peuvent pas rembourser leur carte de crédit, donc du coup, bon. Mais c'est pas ça l'élément dimensionnant. L'élément dimensionnant, c'est en effet le repli de toute cette économie, alors que moi j'appelle du hors bilan, que vous appelez de l'effet de levier, mais on arrive quasiment au même résultat, parce que de toute façon c'est hors de la réalité économique. Et donc là, vous avez une masse de problèmes financiers qui sont en train d'arriver, et qui vont se briser sur le système bancaire
Et le système bancaire, c'est la digue de notre système de vie aujourd'hui. Voilà. Et ce système bancaire, il faut qu'il tienne. Il faut qu'il tienne. Et le problème, c'est que, comme vous l'évoquiez, à force de faire de l'investissement de banque avec des gars qui sont derrière des écrans plats et qui font de la spéculation sur des modèles mathématiques et qu'il n'y a plus personne dans les guichets pour pouvoir entretenir la confiance et cette relation psychologique qui est très forte avec les déposants. Parce que si les déposants, du jour au lendemain, ils n'ont plus confiance, ils enlèvent l'argent, le système bancaire, c'est du sable. Ouais. Ça ne tient pas. Et alors, face au choc qui va arriver avec le repli des hedge funds, des produits dérivés, etc., qui est mais infiniment plus lourd, plus grave que ce que... Enfin, je ne veux pas faire dans l'anxiogène, mais ça n'a rien à voir avec les subprimes. Ouais. Quand on parle des subprimes, on parle de 1 000 milliards de dollars. 1 000 milliards de dollars, c'est rien. 1 000 milliards de dollars, c'est 4 à 5 fois Katrina. C'est le coût de la guerre en Irak et en Afghanistan depuis le départ. Les États-Unis dépensent
relativement conséquent.
Non, mais les États-Unis dépensent 1 700. Ils ont dépensé l'an dernier 1 700 milliards de dollars simplement en dépenses d'armement. Enfin, je veux dire, donc faut. Bon, puis quand on rapporte ça au PNB américain, etc. Enfin, il y a de la capacité. Je veux dire, il y a de la ressource. On peut amortir un choc comme ça, comme on peut amortir un petit ouragan. Et alors, Tad Allen nous disait la chose suivante. Il nous disait, ben, on était tous câblés pour un ouragan, sauf qu'on s'est pris une arme de destruction massive sur la figure. Et alors, une arme de destruction massive. Et il ajoute, sans intention terroriste, qui nous a complètement plégié. Parce que s'il y avait eu intention terroriste, on avait tout ce qu'il fallait dans les plans. Depuis le 11 septembre, on avait les moyens de réponse et on aurait su organiser entre le niveau fédéral, le niveau d'État et le niveau local. Sauf que là, il n'y avait pas d'intention terroriste. Et moi, je dis aujourd'hui, nous sommes confrontés à la même chose. C'est-à-dire que l'élément dimensionnant, c'est tout ce repli des effets de levier, de ces instruments à effet de levier virtuels, qui sont en train d'arriver, de se briser sur le système bancaire, et qui donc fragilise toute notre économie par derrière, parce que tout est lié. Et nous avons en face de nous une arme d'autodestruction massive, parce que c'est nous qui l'avons inventée, pour alimenter notre petit hédonisme de surface, notre quête du matérialisme, d'un matérialisme de plus en plus sophistiqué, à bas prix et à rendement élevé. Et j'ajouterais, pour prendre la terminologie de Tad Allen, avec intention spéculative et prédatrice. Ce qui pose un énorme problème pour les politiques aujourd'hui, parce que les politiques, on l'a bien vu dans le discours du président de la République encore hier soir, il n'arrive pas à avoir de prise sur justement cette dérive d'avidité, de spéculation effrénée, qui est celle que l'on trouve dans les circuits de trading, etc. Quand vous voyez quand même que la caisse d'épargne d'Écureuil, qui est quand même dans le sanctuaire, quelque chose qui est quand même protégé, c'est-à-dire dans la dérégulation générale, s'il y a bien un dispositif où il y a quand même encore des cadrages, vous avez des traders qui s'amusent à faire des opérations qui n'auraient pas dû avoir lieu, enfin bon, qui ont amené quand même des dégâts non négligeables. On peut se poser quand même. On peut quand même se poser la question, si vous voulez, de la réalité de l'emprise du politique aujourd'hui sur cette problématique du couplage entre l'économique et le financier. Et pour moi, le vrai problème de la crise aujourd'hui, c'est son pilotage. C'est son pilotage, puisqu'on est face à une crise hors norme qui pose des questions sur notre modèle mental, sur le fond. Avec en plus ça des chocs qui vont éprouver, nos capacités de résistance, nos barrières et nos instruments de coexistence. Comment est-ce qu'on bâtit le pilotage d'un truc comme ça? Comment est-ce qu'on bâtit et transforme? Comment est-ce qu'on bâtit le pilotage d'une crise comme ça et comment est-ce qu'on transforme la situation? Pour moi, c'est la vraie question qui se pose maintenant et aujourd'hui et sur lequel on a tout à inventer. On a tout à inventer. C'est pas dans le bouc, comme disent les Américains. Là, il y a intérêt à se mettre autour de la table et à réfléchir très vite et à mettre en œuvre très vite. Parce que comme on n'a que des automates maintenant dans les agences bancaires, vous n'avez que des plateformes d'appel à la place d'avoir des agents d'assurance. On a le contact avec la population, cette gestion de la confiance, cette gestion de la psychologie du terrain, alors que tout va se jouer sur le terrain, à la capacité de résistance ou même de résilience des populations par rapport à ces événements vont se jouer sur le terrain, il y a intérêt à avoir un sacré pilotage.
Jean-François Sousbiel.
Oui, on aborde un autre volet de cette crise qui est son pilotage. Est-ce qu'on peut la piloter ou pas? Alors on nous affirme depuis quelques semaines qu'on va procéder, qu'il y a deux capitalismes. Il y en a un mauvais comme le cholestérol et puis il y en a un bon qui est le capitalisme industriel. Bon, le capitalisme, il n'y en a qu'un. D'abord, le capitalisme, c'est le capital. Donc, le but du capitalisme, c'est faire du profit. Et donc, c'est forcément financier. Il n'y a qu'un capitalisme.
C'est la phrase de Marx, enrichissez-vous, enrichissez-vous. Voilà. C'est telle est la loi et les prophètes.
Voilà. Voilà. Il n'y a qu'un capitalisme qui est un capitalisme financier. Et est-ce qu'il est piloté? Eh bien, ça fait déjà maintenant depuis 79, 80, qu'on nous explique que il faut que l'ennemi, c'est l'État, que le problème de l'économie, c'est l'État, qu'il faut déréguler, qu'il faut que l'État maigrisse. Donc, pour le faire maigrir, eh bien, il faut le mettre en faillite. Pour le mettre en faillite, on commence par baisser les impôts, de priorité aux riches. Comme ça, l'État n'a plus de moyens. Et puis, la conséquence, c'est qu'on le fait maigrir et on le dégraisse. Et l'État, depuis la révolution néolibérale, donc Thatcher-Reagan, l'école de Chicago, hein, la célèbre école de Milton Friedman, l'État a perdu absolument tout contrôle et a abdiqué absolument tout contrôle sur l'économie. Donc nous sommes dans une économie aujourd'hui qui est dérégulée et où il n'y a pas de pilote dans l'avion. Il n'y en a pas. Alors tout le discours qu'on entend depuis quelques semaines, qui tente certainement à rassurer d'abord les gens, parce qu'il ne faut pas oublier que le système bancaire, comme vous l'avez fait remarquer tous les deux, il n'y a pas l'argent dans les banques. Hein. Si aujourd'hui plus que 10% des détenteurs de comptes se précipitent dans leur agence pour retirer leurs fonds, c'est fini. Le système s'écroule. Il faut savoir que les banques n'ont pas en caisse l'argent qu'on a déposé. Elles l'ont prêté, elles l'ont surprêté une dizaine de fois ou une quinzaine de fois. Donc d'abord, il faut rassurer les détenteurs de comptes. Bon, je crois que c'est quand même relativement fait. Mais enfin, c'est fait. On a fait passer le risque du système bancaire aujourd'hui sur l'État, sur la collectivité.
On va y venir. Hein, parce que parfois, il y a la question.
Oui, oui. Il y avait un transfert.
Ce qui n'est pas tout à fait quand même normal, parce que le système bancaire, tout ce qui est financier, ils sont rémunérés. La rémunération, c'est la rémunération d'un risque.
Et c'est la contrepartie.
C'est la contrepartie du risque. Or, le risque, on l'a fait passer à la collectivité, donc à tout le monde, c'est pas normal. Et on n'a pas rappelé tous les gens qui avaient gagné des milliards. Vous savez, l'année dernière, à Wall Street, ils se sont partagés 20 ou 28 milliards de dollars de bonus. Vous savez, à la fin de l'année, hein, tous les gens-là, on les a pas rappelés pour rapporter les milliards en caisse, alors qu'ils ont, par leur attitude, leur comportement, ils ont provoqué la crise. Donc il y a eu un transfert, en fait, du risque sur la collectivité, et il faut maintenant que les pouvoirs publics vendent ce transfert.
On peut pas tout à fait dire que l'État n'était pas là et qu'on a. D'abord, moi, je pense qu'il faut un peu dégraisser l'État. Je reste persuadé qu'il faut dégraisser l'État. La deuxième chose, c'est quand même que une des raisons justement de la crise, c'est les taux bas appliqués par les États-Unis et donc le surendettement. Et que je sache, enfin, à mon avis, les taux bas appliqués, ça n'a pas été les banquiers individuels, c'est mais vrai. Ça a été les banques centrales. Hein. Et donc, l'État, au contraire, était omniprésent omniprésent. Et moi, je rappelle quand même qu'il y a à peine 3 ans, des gens comme le président actuel ou Madame Angela Merkel, par exemple, mais aussi une haute autorité de régulation française, poussaient pour que les hedge funds dont on parlait tout à l'heure soient moins surveillés, moins contrôlés, parce qu'on voulait que l'industrie française de la finance rattrape l'industrie américaine de
ce qui veut dire qu'il y a des responsabilités politiques derrière.
Pour moi, il y a de très grosses responsabilités politiques. Et si je ne sais pas ce que je n'ai pas la solution de ce qu'il faut faire, et bien entendu, il faut tous se mettre autour de la table, mais il y a quand même quelque chose qui est aberrant en ce moment, c'est que vous parliez des caisses d'épargne, mais comment, après ce qui s'est passé, on peut encore laisser la main à un simple trader dans une maison? Ouais. Alors, c'est pas tout à fait la caisse d'épargne, c'est une de ses filiales, hein, mais comment on peut laisser la main à des gens comme ça? Comment les États n'ont pas aujourd'hui dit... Moi, la première décision bonne qui devrait être prise, c'est d'envoyer des bataillons de commissaires aux comptes qui seraient des inspecteurs, des contrôleurs avec extérieurs d'abord aux relations habituelles avec la banque, pour aller reconstituer ces fameuses créances qui sont coupées en petits bouts.
Bien entendu,
c'est-à-dire aller dans la banque A, dire bon, eh ben, elle a envoyé à la banque B, on irait dans la banque et les gens qui seraient dans la banque B diraient oui, effectivement, j'ai bien vu arriver, mais maintenant c'est passé à la banque C, et c'est le seul moyen aujourd'hui qu'on ait de reconstituer. Maintenant,
le
il faut repasser dans le dégradé.
On ne le fait pas. Pourquoi ne le fait-on
pas? Alors, je pense que parce que ça serait étalé.
Oui.
Sur la place publique, ce qui est
oui.
et qui serait peut-être très affolant.
Oui. C'est qu'il y a un devoir de vérité qu'on ne veut pas faire.
À mon avis, on ne veut pas. Et la deuxième contrainte que j'aurais mise aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, je ferai voter une loi dans le monde entier où je mettrai tout financier aujourd'hui qui continue ce type d'opération. Il serait sûr d'aller directement en prison dans les 5 secondes qui viennent, sans parce que. On peut avoir eu des aberrations. Moi, j'écrivais dans toutes mes lettres de patrimoine depuis plusieurs années, parce que moi, j'ai connu, parmi les premiers en France, j'ai connu les hedge funds quand j'étais à la Banque Indo-Suez. Hein. Les hedge funds, ils étaient gérés par des gens, et ils le sont en partie encore aujourd'hui, même s'il y a de belles salles de marché derrière, celles dont vous parliez, celles qui servent pour le marché. Mais les gestions se font encore aujourd'hui sur des bateaux au large des îles Caïmans pour ne pas payer, pour que ces gens-là ne paient pas d'impôts. Ils ont un ordinateur, souvent deux ou trois collaboratrices qui sont là pour les aider à passer le temps. Ils achètent du blé dans un endroit pour le revendre dans un autre. Ils achètent des actions dans un endroit pour le faire dans un autre. C'est les hedge funds. Mais les établissements financiers ont fait la même chose. Ça s'appelle pas le hedge fund. Ils l'ont fait avec leurs capitaux propres. Et c'est pour ça qu'ils ont des problèmes aujourd'hui, ces problèmes de hors bilan aujourd'hui, parce qu'on leur fait réintégrer, etc. Et donc, ils ont fait les mêmes choses. Mais aujourd'hui, qu'on les fait, il y a quelques mois, c'était déjà inadmissible parce que un petit bonhomme comme Jean-Pierre Rondeau disait à ses clients, je ne vous conseillerai pas ça parce que je n'y comprends rien. Mais je trouve inadmissible, après les scandales de la Société Générale et après toutes ces faillites de banques, et il faut voir à combien on en est, qu'on puisse continuer, que des banquiers puissent encore continuer à avoir des...
Il y a immunité du système.
Immunité
et autoreconduction. Alors, on peut poser là une question, effectivement, qui relève cette fois de la politique. D'abord, qui a mis en place ces systèmes et ces logiques dans lesquelles, effectivement, des personnes installées dans des paradis fiscaux ou sur des navires à proximité des îles Caïmans peuvent continuer à gérer.
C'est les financiers mondiaux, mondiaux. C'est à partir du moment où le marché
qui l'autorisait,
comme notre ami Jean-François, j'ai réussi. Notre ami Jean-François a dit tout à l'heure. Qui est un marché donc normal qui sert effectivement aux couvertures, mais à partir du moment où on utilise ce marché pour en faire un produit de spéculation aberrant, ça a été l'ensemble de la finance mondiale qui s'y est mis petit à petit. On est en train de parler des hedge funds, mais beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, qui ont des SICAV actions dans leur banque, n'ont pas de hedge fund souvent. Certains en ont, mais n'ont pas de hedge fund. Ils ont des SICAV actions, mais à l'intérieur de la SICAV action, il y a peut-être 3-5% de hedge, parce que le discours était de dire c'est quelque chose de décorrélé avec le marché action, puisque on misait des paris à la fois à la hausse ou à la baisse, et à la fois sur le blé, l'or, le diamant, le cacao, les actions, la hausse des taux, la hausse du dollar par rapport à l'euro. Donc c'était des paris. Et donc, à partir de là, on disait que c'était décorrélé par rapport au marché des actions et qu'il y aurait toujours, donc c'était ce qui allait assurer la meilleure des sécurités d'ailleurs pour la constitution d'un portefeuille. Et donc, moi, j'ai été patron donc de gestion dans deux sociétés de bourse, j'ai chapeauté la gestion dans deux sociétés de bourse. Je peux vous dire qu'aucune personne n'était capable de comprendre. Même nos contrôleurs étaient incapables de comprendre. Si on est capable de comprendre, il vaut mieux être broker, il vaut mieux être parce qu'on gagne bien sa vie.
Oui, mais c'est-à-dire que les personnes compétentes sont en plus sollicitées, elles sont phagocytées par le système qui récupère.
Et la seule sécurité, vous pouvez reprendre, si amusez-vous, aller dans votre banque et demander la plaquette d'un hedge fund, et vous verrez que le principal argument en matière de sécurité, c'est qu'on vous dit qu'il y a 20 gérants. Et donc, comme il y en a un qui parie sur le cacao pendant que l'autre parie sur le dollar et que l'autre parie sur le pétrole, eh bien, on se dit qu'il y en a deux ou trois qui vont se tromper, mais tout le monde ne va pas se tromper. Et donc, on a à la fois des sources de profit importantes et puis peut-être un peu de risque, mais pas trop, puisque c'est diversifié dans 20 gérants. Le problème, c'est qu'on est aujourd'hui dans une crise aussi dont on n'a pas parlé, c'est qu'on est dans une crise de déflation mondiale où tout est en train de baisser, l'immobilier, les titres, les actions, les taux, même l'or. Hein. Donc, on est aujourd'hui dans une crise de déflation et donc tout baisse et donc vous vous retrouvez...
Qu'il va falloir recaler des valeurs. Et alors, je voudrais aller dans votre sens, toujours en reprenant ma métaphore là, de Katrina, parce que Parfois, il faut aller chercher dans des univers parallèles, c'est des éléments qui illustrent ce qu'on vit.
C'est le principe scientifique de l'analogie.
Oui, parce qu'autrement, vous avez un tel blocage et déni de réalité quand vous commencez à parler de la crise actuelle qu'on n'y arrive pas. Quand vous reprenez Katrina, qu'est-ce qui s'est passé? Notamment le problème de la responsabilité des acteurs. C'est que tout le monde a laissé construire, à un moment donné, dans une zone inondable. Alors, on peut faire des grands discours sur le réchauffement climatique, l'intensité cyclonique liée au réchauffement climatique. Je veux dire, quand la vague, elle arrive, eh bien, la vague, elle vient occuper quoi? Elle vient occuper la zone qui est inondable. Et quand vous avez laissé s'installer 350 000 maisons dans une zone qui, de toute façon, était déjà condamnée d'avance, eh bien, le résultat, il est celui de la destruction totale, immédiate et sans dommage, quoi. Bon. En l'occurrence, quand vous regardez ce qui s'est passé avant l'arrivée de cette vague, vous avez eu plein d'amuseurs publics qui ont raconté que c'était l'urbanisme de demain. Parce que vous aviez vu sur le lac Pontchartrain, vous aviez vu sur la mer. Et même pour avoir une meilleure vue et une meilleure profitabilité de votre environnement, on va réduire la hauteur de la digue. Et même pour pas trop investir, parce que ça coûte cher une digue, hein. Y a rien qui coûte plus cher. Et ben on va faire comme vos produits dérivés, c'est-à-dire qu'on va mettre un petit peu de sable, et puis un petit peu de terre, puis un petit peu de bois, etc. On va pas constituer quelque chose de solide. Non, on va prendre les 20 gestionnaires, vous savez, pour mutualiser le risque. Hein. Et ben qu'est-ce qui arrive à l'arrivée? À l'arrivée, que ce soit la nature ou que ce soit les cycles économiques, la réalité économique est quand même basée sur cette problématique de la transformation de la matière pour satisfaire des biens, enfin des besoins, je veux dire de vie. Hein. Eh bien, elle se brise sur ce qui est faible et elle se brise sur ce qui est mal organisé ou qui est mal géré. Et en l'occurrence là, on a bâti pareil toute une société autour de ces phénomènes de surenchère, d'effet de levier. On a fait croire aux gens qu'avec du papier virtuel, on allait leur créer du bonheur, de la richesse, etc., qu'ils pouvaient construire, emprunter, avoir une maison principale, avoir une maison secondaire, puis après avoir une troisième, puis avoir après des maisons à rente viagère, etc., puis qu'on allait leur faire de la rente viagère aussi sur des produits financiers, etc., qu'ils n'avaient plus besoin de travailler. Il suffit qu'ils avaient un peu de pierre, un peu d'action, et puis ça y est, c'était fait. On avait décentré le travail sur les autres peuples loin du monde, là, qui rentrent dans cette mondialisation. Oui, c'est l'évacuation du travail. Évacuation du travail qui est favorisée par ces moyens de transport qui sont beaucoup plus performants, ces moyens de transaction, de transfert d'informations qui sont eux aussi extrêmement performants. Vous pouvez piloter des usines à partir de l'Europe, sur la Chine, sur l'Inde. Enfin, aujourd'hui, le problème du pilotage des process, il n'y a plus d'avantage comparatif. Donc, l'avantage comparatif et l'avantage compétitif, il s'est fait sur quoi? Il s'est fait sur la spéculation, c'est tout. Et nos sociétés ont vécu en zone inondable. Et donc aujourd'hui, alors le problème de la responsabilité politique, c'est qu'ils le savaient.
Bien sûr.
Ils le savaient, on peut pas dire...
L'explosion du Robien, on a dit aux gens... Vous allez acheter, on va vous mettre à disposition un bien, donc vous allez faire un crédit qui va être un crédit d'ailleurs remboursable in fine, qu'on appelle in fine à la fin. Hein. Et puis c'est un locataire qui va vous payer, Alors tout le monde avait fait ça même par le passé. Et les Français se sont enrichis en ayant à l'époque des biens loués. Mais là, on leur faisait emprunter jusqu'à 100%. Enfin, ils n'avaient pas d'apport personnel à fournir et en plus il y avait un avantage fiscal qui était donné par l'État. Donc oui. Voilà.
Alors précisément, peut-on pointer un peu du doigt sa responsabilité, c'est-à-dire situer les grands événements, les grandes dates ou les acteurs principaux qui ont déconstruit ces digues, qui ont entraîné en quelque sorte ce schéma. Je parlais, alors pour rebondir sur votre exemple, sur le seul aspect de la formation des ingénieurs et des techniciens, donc la direction des process de production. Un directeur de l'école centrale, tout récent, expliquait que sa mission n'était plus de former aujourd'hui des ingénieurs en France. Les centraliens n'avaient plus besoin de faire des mathématiques et de la physique. Il avait besoin de former des managers. Pourquoi? Parce que le directeur de l'école centrale considère que un centralien, ça doit être quelqu'un qui sait manager des ingénieurs en Chine. Alors avec évidemment cette conséquence que, au bout de 6 mois de management, comme on dit, toutes ces sciences de l'encadrement, évidemment on ne connaît plus rien à la science, on ne fait plus de physique, on ne fait plus de mathématiques, et qu'évidemment le savoir que vous êtes censé un peu transmettre à ces ingénieurs, au bout de 6 mois, les ingénieurs chinois l'ont parfaitement intégré, ils n'ont plus besoin du manager du tout. Donc typiquement, est-ce qu'on a des exemples de ce type qui peuvent expliquer ce... dysfonctionnement actuel. Qui a mis en place, par exemple, ces lois Robien? Qui a mis en place ces paradis fiscaux? Qui a mis en place ces phénomènes qui permettent à des hedge funds d'investir massivement.
D'abord, je voudrais éliminer la thèse du complot, parce que certains parlent d'un complot mondial sur la crise, etc. Tout le monde s'est ruiné actuellement. Tout le monde s'est ruiné, que ce soit les États, que ce soit les grandes banques, etc. Tout le monde s'est ruiné. Donc, je crois pas beaucoup au complot.
Pour ça, je parle d'autodestruction. Hein.
Voilà. Oui, absolument.
Parce qu'on a tout fait pour tirer des balles dans le pied.
Dans la tête même.
Oui, mais on peut avoir des phénomènes de convergence, même s'ils sont sur des modes sporadiques et aléatoires.
L'homme est ingénieux, il invente chaque fois. Par exemple, dans le cas, vous posez la question sur les rebiens. On a en France un problème de l'immobilier. On a des gens qui sont mal logés, en manque de logement, etc. La première solution, c'est de leur permettre d'accéder à la propriété, mais c'est pas toujours facile. Hein, ils ont pas les moyens, etc. La deuxième solution, c'est de le faire par des gens qui vont investir de l'argent et à qui on va permettre donc d'avoir un avantage fiscal, donc un effet de levier par l'État. En fait, hein, donc ça permet de loger du monde, et c'est le premier point, c'est le but au départ, et le deuxième point, ça permet de faire marcher l'économie, notamment le bâtiment. Quand le bâtiment va, tout va, etc. Donc ça a été de bonnes années, et les premières opérations qui ont été faites, et les Borloo, etc., ont été de bonnes opérations pour ceux qui achetaient en centre-ville, qui ont acheté à des prix il y a trois ou quatre ans, etc. Et puis à un moment donné, ça devient une dérive, parce que tout le monde, on se dit qu'on peut gagner de l'argent. Et donc, qu'est-ce que viennent s'installer sur ce marché-là des gens qui n'ont rien à voir avec la promotion, qui n'y connaissent rien, et je plaisante pas. Quelqu'un qui se dit je vais faire de l'argent. Je connais très bien quelqu'un qui est de ma famille d'ailleurs, et qui est un type honnête, et qui est dans les fruits et légumes. Il est grossiste. Il s'est mis à faire de la promotion immobilière, parce que il avait toujours aimé l'immobilier à travers son père, et donc il s'est mis à construire des petits bâtiments. Bon, lui a fait, je pense, les choses honnêtes, et puis il était obligé de faire des opérations en tiroir, mais après se sont montés des grands réseaux avec des tas de vendeurs, et qui se sont mis à vendre dans la France entière, et puis, il n'y avait plus de foncier, puisque les villes, on le sait très bien, manquent de foncier, donc on s'est mis à construire à 30 km de Toulouse, ou de villes encore bien plus petites, en disant que c'était la périphérie de Toulouse ou autre, et puis on s'est mis à vendre donc des choses mal construites, on a gonflé les salaires des gens pour leur permettre d'emprunter plus, on leur a fait acheter un F3 quand ils auraient dû se limiter à un F2, on leur a promis des loyers de gens qui sont pas tenables sur le marché, mais ils n'ont même pas été voir, ils ont acheté sur plan, donc ils n'ont même pas été voir, à celui de Lille on vendait dans le sud, et puis sens contraire. Voilà. Et
puis, le crédit fonctionne sur la crédulité.
L'opération fonctionne sur la crédulité, bien sûr. Et dans le cadre des opérations de hedge et autres, comme il a été dit, il existe des marchés qui servent effectivement à l'économie, qui ont une réalité économique, qui, dans le cadre qui a été cité, c'était d'assurer donc des opérations d'échanges commerciaux. Donc ça, c'est une réalité. Mais à un moment donné, il y a des malins qui se disent, tiens, mais on peut gagner de l'argent en faisant ça. Le fait d'emprunter en yens, ce que j'expliquais tout à l'heure, pour aller se replacer en dollars, ça n'a aucun intérêt économique. Uniquement un placement. Donc voilà.
Oui, mais qui est permis parce que précisément des personnes à un moment ou à un autre autorisent le fait de pouvoir jouer sur des monnaies et donc de pouvoir.
Mais le phénomène économique était le même que le phénomène immobilier, c'est que ça arrangeait tout le monde. L'économie aux États-Unis et notamment, mais par Wall Street, etc., ça faisait vivre pas mal de gens autour, non seulement les traders, etc., mais tous les gens qui les voitures qui s'achètent, les magnifiques appartements. J'ai pas besoin de vous décrire les films qu'on a vus.
Je crois qu'on fait un faux procès là. Nous sommes dans un système capitaliste néolibéral, il faut l'assumer, c'est un problème politique. Les États-Unis acceptent tout ça, je veux dire, nous sommes dans un régime capitaliste néolibéral. Il a été choisi dans les années 70, parce que dans les années 70, il y a eu la défaite du Vietnam en 73, les États-Unis ont été dans un bad cycle horrible toutes les années 70, leur industrie était mise en faillite pratiquement par les importations de voitures japonaises, et il y a eu une...
ça fait depuis 30 ans.
Oui, mais c'est un choix politique. Qui est responsable de ça? Personne n'est responsable de ça. C'est un choix politique. Où vous choisissez le capitalisme néolibéral, où vous choisissez une forme d'organisation sociale et politique plus socialiste. C'est pas la mode du tout, mais le problème, il est là.
Et je pense en plus de ça, si vous voulez, je crois qu'il faut être très conscient que l'Europe, la vieille Europe, qui, est très indolente, hein, faut voir les choses comme elles sont, a accepté de se mettre dans le sillage de ce modèle mental, hein, qu'on évoque, hein.
Oui, la Grande-Bretagne.
Mais la Grande-Bretagne était déjà un petit peu, donc, c'est naturel chez eux, ils sont déjà dans ce modèle-là. Mais l'ensemble de l'Europe continentale s'est mise dans cette logique-là et a accepté d'enfermer les États-Unis dans une logique de surpuissance. Surpuissance militaire, surpuissance en termes d'ingénierie financière, surpuissance en termes de modèle de vie, etc. Et puis nous, on s'est engouffré derrière. On leur a même confié notre épargne, on leur a confié nos revenus, etc. Pensant que, et c'était très astucieux pour les politiques, parce que comme ça, ils pouvaient continuer à avoir un discours sur la providence, sur un discours très rassurant sur nos modèles sociaux, nos modèles de vie, hein, et faire leur rendement à l'extérieur en partant du principe que c'était pas leur domaine de responsabilité. Et alors là, aujourd'hui, on se rend compte que quand les Américains annoncent un plan de 700 milliards de plan Paulson, 1000 milliards, quoi, à peu près, grosso modo, nous, on annonce qu'on est à 1700. Ce qui fait quand même de l'ordre de 2400 milliards de dollars, hein, bagatelle de 2400 milliards de dollars. Et on se dit, mais on se découvre du jour au lendemain, mais on se dit, mais comment ça se fait que nous, on soit aussi impactés? On est beaucoup plus impactés que les Américains parce qu'on est suiveurs dans cette affaire-là. Et qu'on a accepté de déléguer, de ne pas contrôler, de ne pas réguler, etc. Les Européens sont complètement dans cette affaire. Les Européens sont complètement inconséquents. Ils sont indolents, mais ils sont complètement inconséquents et irresponsables. Et on le paiera, à mon avis, très cher parce que, au-delà, le problème du traitement de la crise financière et économique, il y a tout le reste. Il y a tout le reste, parce que qui va sur le problème de, je dirais, que, alors on va sur les dimensions qui sont un peu plus géostratégiques et géopolitiques, qui est le problème de la résistance de ce petit bout de continent à tout un tas de choses qui sont en train de bouger autour.
Nous y viendrons dans la deuxième partie de l'émission.
Et qui utilisent la fenêtre de tir aujourd'hui pour pouvoir affirmer, soit sous des logiques identitaires, soit sous des logiques territoriales, ou voire même des approches thématiques ou transverses, leur pulsion, hein. Ouais. On a tendance à l'oublier dans l'analyse de la crise.
Bon. Ce qui signifie donc que les fondamentaux de cette crise sont aussi liés à des paramètres politiques et à l'effacement de cette vertu première du politique qui est le courage. C'est-à-dire qu'il y a une forme de lâcheté et de renoncement qui a été à l'origine, en quelque sorte, de cet abandon de ce qui fait les fondamentaux de l'économie.
Mais toutes les crises politiques qu'on traverse en Europe aujourd'hui trouvent leur racine dans cet abandon il y a 30 ans, enfin, je veux dire, de la gestion de notre futur, enfin, de notre quotidien, de notre futur, notre assujettissement à un modèle, et puis notre suivisme,
Nous n'avons plus d'alternance d'ailleurs politique.
Et sur les modèles, par exemple, sur les modèles de formation très courts, moi j'ai quand même assisté dans des grandes écoles dites de commerce ou de business school à des exercices type war room, hein, où vous prenez les étudiants au bout de leur cursus, il y aura une semaine, vous leur faites, vous savez, des jeux, on joue,
des
jeux de rôle, hein, mais avec des modèles très, très élaborés, etc. Et je me suis rendu compte qu'au bout d'une semaine, les types n'étaient plus sur la fabrication de produits, la production de produits, la bataille autour de produits, puis l'occupation de terrain en termes de marché concret, etc. Au bout d'une semaine, ils étaient sur des cours en bourse, ils étaient sur de la communication. Aujourd'hui, c'est cette société-là que nous sommes en train de solder.
Je vous propose de poursuivre cet échange dans la seconde partie de cette émission après une courte plage musicale.